Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Du grain à moudre d'été, ce soir, exposition, assiste-t-on à une course aux blockbusters ? Il n'y avait plus de place aujourd'hui, et il en reste peu pour demain, uniquement en toute fin de journée. Même au creux de l'été, le succès de l'exposition Toutankhamon ne se dément pas à Paris, grande halle de la Villette. Un peu plus d'un million de visiteurs l'ont déjà vu, un peu plus d'un million en 4 mois, et c'est loin d'être fini. Elle est encore ouverte pendant 2 mois, chaque jour de la semaine, de 9h à 20h, voire certains jours jusqu'à 22h. Toutankhamon, le trésor du pharaon, c'est son titre, super production très médiatisée, ce qui est le cas aussi d'une autre exposition qui n'a même pas encore commencé, celle consacrée à Léonard de Vinci. Elle ouvrira fin octobre au Louvre avec une nouveauté, l'obligation de réserver son ticket d'entrée à l'avance, donc signe marquant d'une tendance. Les expositions sont d'abord présentées comme des événements rares, exceptionnels, des événements partant censés attirer de nombreux visiteurs, une évolution qui semble difficile à contenir, d'où cette question. Exposition, assiste-t-on à une course aux blockbusters ? Pour en parler, 3 invités. Françoise Benamou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris 13. Vous enseignez aussi à Sciences Po. Vous travaillez particulièrement sur l'économie de la culture et des médias. L'un de vos derniers livres est consacré à ce sujet, l'économie de la culture, publié aux éditions La Découverte. Martial Poirson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et économiste, professeur à Paris 8. Vous êtes en duplex de Nantes. Par téléphone, Didier Rickner, bonsoir. Monsieur Rickner, est-ce que vous nous entendez ? Didier Rickner, qui est avec nous, qui sera avec nous dans quelques secondes, historien de l'art, directeur de la rédaction du magazine en ligne La Tribune de l'Art.
En France, une exposition exceptionnelle à Paris consacrée au trésor de Toutankhamon.
C'est l'événement culturel de l'année. Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, fait son retour.
Toutankhamon, superstar. Aux États-Unis, on l'appelle King Tut et il s'installe à Paris à partir d'aujourd'hui. Une expo hors norme. Certains parlent de l'expo du siècle.
Alors le monde, vous n'avez même pas idée, 200 000 préventes.
Nous sommes de Barcelone, d'Espagne, et nous avons venu le week-end à Paris, et une des choses qu'on voulait voir, c'est l'expo de Toutankhamon.
Je trouve que c'est complètement magique. C'est magique, on est transporté immédiatement, c'est très bien fait, c'est sublime.
Bien sûr, c'est fascinant, mais bon, comme d'hab, il y a forcément trop de monde devant les vitrines avec des petits objets, et puis... La manie des gens de tout photographier, et ils sont toujours prioritaires sur les gens qui ne font que regarder. Donc ils sont là, on passe devant. Donc c'est fascinant, c'est merveilleux, mais c'est pas optimal à mon avis. C'est très commercial.
Voilà quelques avis de visiteurs de l'exposition Toutankhamon à Paris. Exposition, vous l'avez entendu aussi, qui avait fait la une en mars lors de son ouverture. Une exposition qui, il y a quelques mois, était à Los Angeles et qui sera dans quelques mois à Londres, puis à Sydney. On va reparler de cette médiatisation. On parlera aussi du financement de ces grandes expositions, du rôle de l'État, du mécénat et des conséquences aussi que ces super productions peuvent avoir sur d'autres expositions un peu plus confidentiel, voire sur les musées. En quelques mots, pour commencer cette discussion et cette émission, en quelques mots rapidement, Françoise Benamou, que pensez-vous de cette exposition ?
Écoutez, c'est un très joli coup pour la halle de la Villette, la grande halle.
Qui n'a pas l'habitude d'accueillir d'expositions de ce type.
Absolument, c'est un événement, comme vous l'avez dit, qui a un caractère tout à fait exceptionnel, qui a été présenté comme tel en plus. C'est exceptionnel, donc si vous le ratez, vous manquez quelque chose que vous ne verrez peut-être pas durant toute votre vie. Donc il y a le côté rêve, évidemment, il y a aussi, c'est une exposition qui s'adresse aux parents et aux enfants, parce que il y a les programmes scolaires, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui font évidemment l'engouement tout particulier pour cette exposition. On peut ajouter le fait que les médias ont beaucoup fait pour cette exposition, comme vous l'avez montré dans votre introduction.
On reparlera aussi des publics que vous avez mentionnés, Françoise Benhamou. Quelques mots aussi pour parler de votre impression sur cette exposition Toutankhamon, Martial Poirson.
Alors, je crois que ce type d'exposition est tout à fait significatif d'une évolution actuelle des musées. On a à la fois des conditions de production tout à fait exceptionnelles, un lancement international, une sorte de tournée mondiale, et puis l'accueil final de cette exposition dans un musée qui est en cours de construction en Égypte. Donc là, on a une sorte de grand récit fondateur, d'effet de saturation médiatique. On est dans un lancement qui est proche de celui des très grands films, des très grands blockbusters, avec à la fois un effet d'annonce des mois avant, avec des produits dérivés, avec une sorte de phénomène de saturation médiatique. Donc je pense qu'on est dans un dispositif qui est à la fois tout à fait exceptionnel et qui est en même temps vraiment révélateur d'une évolution assez large du milieu des politiques culturelles. Mais c'est aussi une exposition qui interroge à la fois justement par ces effets de saturation, par ces effets de focalisation, par un récit qui reste quand même centré sur les grandes figures, les grands rois, les grandes dynasties, les grands trésors, le patrimoine mondial, et qui peut-être n'a pas entièrement pris en compte l'évolution de ce qu'on appelle aujourd'hui cette histoire à part égale, c'est-à-dire ces regards croisés entre l'Occident qui fantasme encore aujourd'hui sur ses origines réelles ou fantasmées, et puis les territoires sur lesquels ces civilisations se sont installées. Et donc je pense que là, on est dans quelque chose qui reste encore un storytelling, un discours relativement dominant et qui peut-être rate l'occasion de porter à nouvel examen toute cette construction historiographique. Les moyens muséographiques modernes permettraient,
Cet effet de focalisation que vous évoquez, Martial Poirson, et ce dispositif exceptionnel, Françoise Benhamou, c'est ça qui fait de cette exposition une super production?
Alors, le point sur la mondialisation est extrêmement important. C'est-à-dire cet effet mondialisation des musées, on le voit à différents niveaux. On le voit bien, par exemple, le Louvre qui est créé, si je puis dire, un autre Louvre à Abu Dhabi qui se reproduit dans le monde. Vous avez des expositions, toutes les grandes expositions aujourd'hui circulent. On ne peut pas faire une exposition tout seul, il y a des problèmes de coûts, mais aussi parce que dans le fond, c'est pensé comme un produit mondial. Et effectivement, on a de plus en plus, j'irai dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, on va vers une polarisation, c'est-à-dire ces grandes manœuvres, ces grandes expositions qui ont leur intérêt, qui ne sont pas destinées à être des expositions dossiers qui feront avancer la science, ça c'est clair, ça se passe ailleurs, l'avancement de la science. Là, sont des expositions grand public qui sont affichées comme telles, qui ont cet objectif et qui, dans le fond, remplissent cet objectif.
On essaie toujours d'avoir Didier Rickner. La liaison est difficile avec le sud de la France. C'est là que se trouve cet historien de l'art et le directeur de la rédaction du magazine En Ligne, La Tribune de l'Art. Nous ne désespérons pas de l'avoir dans quelques instants pour participer à ce débat. De nombreux visiteurs, très nombreux visiteurs. C'est ce que vous disiez, Françoise Benhamou, un peu plus d'un million, je le rappelle, pour cette exposition Toutankhamon. Ce qui en fait déjà, pour donner quelques repères, la quatrième exposition la plus visitée en France, les trois premières étant celle déjà consacrée à Toutankhamon. C'était en 1967, 1 240 000 visiteurs, puis celle, ça c'est plus récent, l'an dernier, sur les chefs-d'œuvre de la collection Tchoukine, c'était à la Fondation Louis Vuitton, 1 200 000 visiteurs. Troisième, les chefs-d'œuvre de la Fondation Barnes, c'était en 1993, 1 100 000 visiteurs. Martial Poirson, est-ce que ces expositions permettent d'attirer un public un peu plus large et différent, plus divers en tout cas, que ne le permettent d'autres expositions?
Alors oui et non, puisque ça a été dit dans l'introduction, ces expositions ne sont pas en mesure finalement de répondre à la demande qu'elles ont elles-mêmes suscitée, en fait, et mettre le spectateur dans des conditions d'inconfort qui sont peut-être en contradiction avec l'objectif même de ces expos, qui est justement de confronter un public élargi à ces grandes œuvres, à ces grands chefs-d'œuvre qui sont supposés dégager par le seul fait d'être confronté à un public une certaine force de fascination et de sidération. Et donc il me semble qu'il y a une sorte de hiatus ou de tension entre à la fois la recherche de ces nouveaux publics qui peut-être ne sont pas si nouveaux que ça. Il faudrait faire des études non plus simplement quantitatives mais qualitatives pour voir en réalité s'il y a une véritable ouverture des publics et la façon dont le projet de qui consiste à donner accès finalement à ces grands chefs-d'œuvre réservés et consacrés, n'est pas partiellement contredit par la façon dont ensuite on est obligé d'organiser une logistique à très grande échelle à laquelle la plupart de ces lieux de conservation et d'exposition ne sont pas préparés. Il y a peut-être une contradiction entre l'outil et l'objectif. Mmh. Et puis un deuxième problème peut-être plus fondamental consiste à se demander si le vrai objectif de démocratisation consiste à exercer un effet de redondance par rapport à une sorte de savoir commun. Bon, on a tous, tous les jeunes enfants en tout cas qui ont été scolarisés dans l'école de la République ont quelques notions sur l'histoire de l'Égypte ancienne, peut-être beaucoup moins sur des pans entiers finalement de la culture, et l'objectif d'une véritable démocratisation par les musées serait peut-être justement de leur donner accès à ça. Et puis le troisième point, vous le mentionniez, c'est que finalement, il y a un effet de report sur trois des quatre plus grandes expositions en termes de fréquentation que vous avez mentionnées, émanent de fondations et sont centrés sur des collections privées. Mmh. Et donc, il y a une sorte d'effet de focalisation, non plus sur l'artiste ou sur l'œuvre, mais sur la grande figure du collectionneur, ce qui est un apport important de ce nouveau mécénat privé, de ce mécénat par les fondations, mais qui peut-être, là encore, va avoir tendance à biaiser ou à brouiller le discours et être adressé peut-être à un public moins élargi qu'il n'y paraît.
Françoise Benhamou.
Oui, alors deux points. D'abord sur le fait que vous avez souligné, et c'est important, et ça a été repris par Monsieur Poisson, le fait que une des trois grandes expositions se soit passée à la Fondation Vuitton, c'est-à-dire dans un lieu privé, alors qu'on est habitué plutôt à ce que les musées soient des musées publics, du moins en France. C'est un point tout à fait important et intéressant. On pourra revenir ensuite sur le financement de la Fondation, mais c'est autre chose, qui montre que s'établissent de nouvelles concurrences entre les établissements, entre les grands établissements, et par exemple, aujourd'hui, le Grand Palais versus la Fondation Vuitton. Et c'est un point important parce que ça veut dire que ces concurrences, elles vont s'établir de deux points de vue, par rapport au public. Est-ce que les publics vont aller à toutes les expositions ou vont se répartir autrement? Et puis par rapport au financement. Donc, nouvelle concurrence déjà. Deuxième point, même quand ce sont des établissements privés, eh bien on voit que, dans le fond, la logique est la même. De ce point de vue-là, il n'y a pas une révolution sur la manière de travailler, c'est-à-dire qu'on voit cette focalisation, effectivement, sur les grands événements. Le deuxième point, sur démocratisation. Alors, on peut regretter que le ministère de la Culture ne produise pas de données là-dessus, des données qui seraient peut-être pas scientifiques, mais au moins à partir d'interviews des gens qui viennent dans les expositions. Ce serait très important de savoir ce qui se passe exactement. Parce que moi, je fais une hypothèse, et cette hypothèse, il faudrait évidemment l'étayer à partir d'études, c'est que quand même, il se passe quelque chose. Quand vous avez beaucoup de gens qui vont quelque part, un événement dont on parle beaucoup, il y a un moindre confort, c'est vrai, parce qu'il y a plein de monde, il faut faire la queue, c'est embêtant, les salles sont pleines, etc. Mais d'un autre côté, il y a moins d'intimidation. Et donc peut-être qu'on ouvre un tout petit peu le jeu vers des publics qui sont un petit peu différents. Alors il ne faut pas se faire d'illusions, mais ce petit peu n'est pas inintéressant.
Nous avons retrouvé Didier Rickner. Bonsoir Monsieur Rickner.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Nous parlions, vous l'avez entendu, de la démocratisation que permettent peut-être ces grandes expositions ou ces expositions super production. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ?
Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une démocratisation. Des personnes vont voir des œuvres, mais je ne suis pas sûr qu'elles comprennent tout ce qu'elles voient, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément... Il y a beaucoup d'accompagnement autour, mais c'est... Comment dire, on est presque dans un parc d'attractions, et ça me gêne beaucoup, personnellement. On va le ressasser une nouvelle fois l'Égypte, ensuite les Picasso, ensuite les impressionnistes, et puis on tourne toujours autour des mêmes thèmes. Je vois pas ce qu'il y a de démocratie quand on montre toujours la même chose aux gens, en imaginant qu'ils sont pas capables de voir autre chose.
Je trouve que c'est, au contraire, un grand mépris du public, finalement.
Françoise Benhamou.
Un mépris, non, je dirais pas ça. Évidemment, ça peut être une entrée dans le monde de la culture que de commencer par des grands noms qu'on connaît parce qu'on en a entendu parler, parce qu'il y a quelques œuvres qui sont extrêmement connues, et ensuite aller vers autre chose. Ce pari-là, il est loin d'être gagné. Et à mon avis, il réclame un accompagnement extrêmement important et une formation dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il faudrait que les enfants apprennent un peu d'histoire de l'art, ce qu'on ne fait pas du tout en France, mais qu'on ait une entrée dans le monde de la culture à partir d'événements. Je crois qu'il ne faut pas non plus mépriser cela. Pourquoi pas ? La vraie question, je crois, c'est l'accompagnement pour aller plus loin.
Martial Poirson, Didier Rickner parlait à l'instant du manque d'accompagnement dans ces super productions. Quels sont les autres problèmes que posent ces expositions ?
Oui, alors effectivement, un des effets indésirables de cette politique de démocratisation, c'est le risque de marchandisation. Et de ce point de vue-là, les fondations privées ou le mécénat privé d'accompagnement n'agissent pas de façon très différente des institutions publiques, sont soumis au fait aux mêmes impératifs, impératifs de rentabilité, impératifs de recherche de fonds propres, et donc il y a une sorte de dérive fréquentation de masse ne veut pas dire diversité des publics. Et donc je regrette, comme Madame Benamou, effectivement, qu'il n'y ait pas d'études précises sur le profil en fait de ces nouveaux publics. Enfin, c'est purement déclaratif puisqu'on n'en a pas véritablement la preuve, si ce n'est par ces flux de fréquentation. À mon avis, un autre problème, c'est celui qu'on pourrait appeler de la médiatisation. C'est-à-dire que l'entrée dans une exposition est à la fois un moyen de valoriser un patrimoine, alors qu'il peut être bien connu et identifié, ou l'être moins, ou qui peut introduire des allers-retours, d'ailleurs, entre des œuvres bien connues et consacrées, et d'autres qui le sont moins. Et de ce point de vue-là, les grands chefs-d'œuvre peuvent être des produits d'appel et exercer un effet d'attraction qui permet ensuite de les resituer dans des écoles, dans des courants, dans des ateliers, et d'avoir une appréhension peut-être plus globale du phénomène que simplement la focalisation sur certains grands artistes bien connus de l'histoire de l'art. Et donc, à travers cette médiatisation, peut-être se joueraient des éléments correctifs qui permettraient d'arriver à une forme de démocratisation et peut-être de se prémunir également contre ce risque de ce qu'évoquait Monsieur Rickner à l'instant, de dérive en parc d'attractions. Une exposition, c'est aussi un discours tenu sur les œuvres, un discours qui s'actualise à chaque époque, finalement, qui confronte l'époque, le contexte dans lequel les œuvres sont nées et la façon dont on les perçoit aujourd'hui à travers les problématiques de notre temps. Et je pense qu'une bonne exposition est une exposition qui permet en permanence de faire le va-et-vient entre ces conditions de naissance des chefs-d'œuvre et la façon dont des interprétations, des lectures ont pu les renouveler. Et puis un autre élément, c'est aussi l'implication du spectateur. Et je pense que l'effet de masse d'exposition comme Toutankhamon ne permet pas une implication riche du spectateur, une forme de réflexivité, une forme d'immersion, une forme de déambulation rêveuse. On est quand même dans une gestion de flux, on est dans des contraintes logistiques extrêmement importantes qui finalement nuisent à ce recul sur les œuvres que l'exposition est censée produire, par opposition justement aux collections permanentes qu'on peut venir consulter quand on veut et tout ça. Et dans cette notion d'événement, on doit retrouver de façon peut-être beaucoup plus nette que celle que le marketing de ces blockbusters ne permet de le faire, puisqu'on a des discours qui sont quasi publicitaires, comme ceux qui étaient évoqués en tout début d'émission, on doit peut-être insister davantage sur ces effets de lecture, sur ces effets de réappropriation finalement.
Problème logistique, problème de médiatisation, problème de marchandisation. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes, selon vous, Didier Rickner, posés par ces superproductions ?
C'est la suite de ce que dit, c'est la conséquence de vient de ce que dire Monsieur Poirson. C'est que on lutte actuellement, on essaie de lutter contre le tourisme de masse. Il y a plein d'articles dans la presse aujourd'hui. Or là, on a les expositions de masse, on a le tourisme de masse au musée.
Il y a beaucoup de touristes d'ailleurs, on l'entendait, il y a beaucoup de touristes qui viennent à Paris pour voir cette exposition Toutankhamon.
Oui, alors non seulement ça fait venir plus de touristes dans Paris, mais surtout ils visitent l'exposition dans des conditions épouvantables, c'est ce que disait Monsieur Poirson. Quand on a une exposition blockbuster, on ne peut pas voir les œuvres. Il y a quelque chose qui est presque comparable à ça en ce moment, c'est le déplacement de la Joconde au Louvre, et qui sera suivi bientôt d'une exposition Léonard de Vinci, encore une exposition blockbuster. Et là, on a des conditions de visite impossibles. Le Louvre est complètement sous siège, en état de siège quasiment, parce que la Joconde a été déplacée, que c'est très compliqué d'aller la voir maintenant. Et contrairement à ce qu'on peut supposer, c'est pas parce que les gens vont voir la Joconde qu'ils vont voir le reste. Les Rembrandt, les Vermeer, alors que Vermeer attirait la foule à cause de l'exposition qui était très médiatisée. il y a un ou deux ans et ça a occasionné déjà un chaos, eh bien là, les Vermeers, il n'y a personne devant. Les gens vont voir la Joconde.
D'ailleurs, c'est une situation assez inédite au Louvre. Le Louvre qui s'est retrouvé saturé ces derniers jours, en partie à cause de ce déplacement de la Joconde et qui a dû refuser des visiteurs. Françoise Benhamou, est-ce qu'on a déjà vu ça lors de d'autres grandes expositions? Prenons par exemple celle de 1967.
Vous savez, cet engouement pour les musées, il est de plus en plus fort. Il est de plus en plus fort et il est nourri par la politique elle-même des musées. Hein. C'est-à-dire, on évoquait le Louvre par exemple. Cette année, il y a eu deux expositions qui ont très bien marché. Mais c'était, pour Delacroix, c'était 540 000 visiteurs. Il y a 10 millions de visiteurs au Louvre. C'est-à-dire que vous avez 75% de visiteurs qui sont étrangers, qui viennent pas nécessairement pour les expositions, mais bien plus pour la collection permanente. Et quand je dis la collection permanente, dans la direction de ce que disait Monsieur Eichner, pourquoi? Pour voir la pyramide, pour voir la victoire de Samothrace, pour voir la Joconde. Et donc, évidemment, si on leur enlève la Vénus de Milo ou la Joconde, ils sont déçus. Mais moi, je me dis, dans le fond, les musées sont condamnés, ou c'est leur avenir, à marcher sur les deux jambes, c'est-à-dire la jambe de ces grands événements, plus ou moins grands. Alors, tous les musées ne font pas ça, parce que là, nous parlons des très grands musées. Tous les musées n'ont pas les moyens de s'inscrire dans cette logique. Il y a tout autre chose aussi qui se joue. Et puis, d'autre part, d'un travail plus, je dirais, plus scientifique et avec des salles qui, effectivement, ça laisse toujours pantois, sont à peu près désertes, alors qu'elles sont tout aussi magnifiques. Ça existe depuis très très longtemps, c'est le phénomène du Star System.
On va revenir à ses conséquences sur les musées, sur les autres expositions. En quelques mots, Martial Poirson, vous avez évoqué, on a évoqué quelques problèmes posés par ces super productions, ces grandes expositions qui existaient aussi au siècle dernier, peut-être sous une autre forme. Mais est-ce que ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui étaient déjà là dans les années 60, par exemple, avec la première exposition Toutankhamon en 1967 précisément?
Oui, alors je pense que ce problème est effectivement un problème récurrent, qui est l'inadéquation entre le projet politique de mise en partage de la culture et les moyens architecturaux, matériels, financiers de mise en œuvre de ce type de production. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'entrée en masse d'investisseurs privés qui permettent finalement de rendre possible financièrement un certain nombre de choses, mais qui vont également, d'une certaine façon, modifier en profondeur le travail des curateurs, des conservateurs, des commissaires d'exposition, qui vont être finalement dans une situation tout à fait paradoxale où l'abondance de moyens va les obliger à faire des choix qui ne vont pas forcément dans le sens de à la fois l'innovation en termes de choix d'œuvres et surtout de discours sur les œuvres. Cela dit, si on voulait sortir des deux exemples cités depuis tout à l'heure, on peut citer quand même des cas extrêmement réussis dans des institutions qui sont de grandes institutions. L'exposition sur le modèle noir à Orsay, de ce point de vue-là, à mon avis, est une grande réussite, puisqu'on a à la fois de grandes œuvres patrimoniales, mais en même temps des œuvres qui sont systématiquement remises dans leur contexte, qui sont interrogées dans leurs conditions même de réalisation. Un discours critique qui à la fois est extrêmement accessible avec des cartels tout à fait lisibles et qui vont avoir en même temps à cœur d'aller rechercher l'identité biographique des modèles qui sont d'une certaine façon, qui font partie du paysage et du décor de ces grandes œuvres, qui ont rarement été interrogées en tant que telles et qui tout à coup deviennent un objet d'attention et de discours et de production donc de connaissances dans un contexte qui est celui donc de la recherche d'un discours plus divers sur les œuvres et peut-être d'un décentrement du discours traditionnel focalisé sur la posture de l'artiste. Et donc il y a une sorte de déport vers la prise en compte de la réception en tant que telle et de la trace historique que laisse la réception de ces grandes œuvres à différentes époques. C'est comme une sorte de méta-exposition qui finalement s'interroge sur l'impossibilité même d'exposer d'une certaine façon et qui produit en tout cas de la connaissance tout en restant très largement ouverte à un public peut-être même beaucoup plus large que par le passé, puisque pour le coup, on interroge la question de l'origine ethnique des modèles, de la condition sociale des modèles, et des relations finalement à l'intérieur du milieu de l'art entre les sujets et les artistes.
En un mot, Marcel Poirson, est-ce qu'on a une idée du nombre de visiteurs de cette exposition ?
Alors, j'ai pas recherché, je vous avouerai la chose, mais c'est une exposition en tout cas qui a été extrêmement médiatisée, qui a attiré un public tout à fait significatif, même si évidemment il est loin d'être aussi considérable que les 1 million de Toutankhamon, et qui pour le coup est visiblement plus divers que le public traditionnellement dédié à ces musées d'art et d'histoire.
Bon, voilà une réussite. Je voudrais vous faire écouter maintenant et revenir encore à 1967 et à cette première grande exposition, super production. C'était une exposition déjà sur Toutankhamon au Grand Palais à Paris. Je voudrais donc vous faire entendre la voix d'André Malraux, ministre de la Culture à l'époque. Il inaugurait cette exposition aux côtés de son homologue égyptien qui venait de parler et auquel André Malraux s'adresse du moins en partie.
L'exposition même vient de m'étonner beaucoup comme vous-même, car nous avons vu ces objets depuis longtemps au Caire, mais enfin, nous ne les avions pas vus dans d'autres conditions. Et ce qui paraît ici, dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité. Vous revoyez comme moi la fresque de la reine Néfertari. Elle va passer dans l'au-delà et elle joue toute seule parce que le personnage qui joue avec elle aux échecs et qui joue son destin, c'est le destin lui-même. L'Égypte antique aura joué cette partie incroyable en face du destin, qu'ayant presque exclusivement représenté des morts, elle aura été l'actrice la plus puissante de la vie qu'on ait jamais connue.
Voilà, André Malraux.
Quel régal.
Quel régal, n'est-ce pas, au-delà de cette analyse proposée par l'écrivain. Ce qui est intéressant, c'est la voix d'André Malraux. C'est la voix du ministre de la Culture. C'est lui, ministre de la République, qui inaugure cette exposition. C'est la France qui remercie l'Égypte. C'est ce que dit aussi André Malraux au cours de ce court discours. Aujourd'hui, Françoise Benhamou, est-ce que cette dimension dans les superproductions, encore une fois, a disparu?
Non, elle n'a pas disparu, on peut pas dire ça. Vous savez, j'ai été longtemps administratrice du Louvre, et ce qui m'a frappée, au-delà du fait que c'est un immense musée et magnifique, c'est aussi que ça n'est pas qu'un musée, c'est un outil diplomatique. Et donc, une exposition de ce type appelle un discours comme celui-là. Alors, bien sûr, en même temps, les temps ont changé, on a sans doute des ministres tout à fait intelligents, mais moins doués pour le discours et sans doute moins imprégnés de culture comme l'était Malraux. Mais dans le fond, ce rôle de la culture, il existe encore, bien entendu.
Et
quand on a un grand visiteur, chef d'État, il vient souvent visiter le Louvre, voilà. Et on sait très bien que, par exemple, à propos de Léonard de Vinci, il y a eu des tractations entre la France et l'Italie sur le prêt des œuvres parce que le mouvement 5 étoiles entendait ne plus se prêter justement à cette exposition.
Didier Rickner.
Oui, la différence entre l'époque de Malraux et l'époque d'aujourd'hui, c'est la différence entre André Malraux et Franck Riester. Je veux pas être méchant, mais il est clair que le niveau des ministres de la Culture a quand même beaucoup baissé et que le ministère de la Culture lui-même s'est beaucoup affaissé. Et que c'est pour ça d'ailleurs que les grandes expositions, certaines des grandes expositions ont lieu en dehors des musées. Que dire de plus? Simplement, le jour où on aura à nouveau un grand ministre de la Culture, même si André Malraux n'était pas exempt de défauts, on sait que par exemple à Angkor, il a un petit peu vandalisé le temple et c'est des choses quand même assez incroyables. Je ne lui pardonne pas non plus complètement d'avoir mis le plafond de Chagall devant le plafond de Le Neveu. On avait une œuvre d'art totale. Et il a mis Chagall, qui est très bien, qui est très beau, mais qui
vous parlez de
à mon avis,
de l'opéra.
Mais peu importe. On avait un niveau culturel de nos politiques qui était autrement plus important que celui d'aujourd'hui.
Martial Poisson.
Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus trop accabler les ministres et que ce qui a changé surtout, c'est la politique culturelle dans son ensemble. Alors, il y a des choses qui restent tout à fait pertinentes, c'est-à-dire l'utilisation effectivement de la culture comme outil diplomatique, outil de soft power, outil de rayonnement national. Et Malraux était effectivement de ce point de vue-là tout à fait conscient des enjeux géostratégiques de la politique culturelle. Mais il était aussi l'artisan d'une politique généreuse de l'offre et considérait que finalement c'est dans la surabondance de propositions artistiques que pouvait naître le véritable levier démocratique. Et c'est peut-être ça qui est en train de changer avec ces expositions blockbuster. Je rappelle que le terme blockbuster signifie quand même bombe de gros calibre, donc la métaphore militaire peut être interrogée en tant que telle de ce point de vue-là. Et là, on passe d'une politique de l'offre surabondante à une politique de la demande, ou plutôt de l'anticipation de la demande, où les politiques culturelles sont censées s'ajuster sur un état de l'opinion, qui est d'ailleurs dans une large mesure fantasmée, puisqu'on n'a pas véritablement les outils socio-économiques, en tout cas on n'a pas diligenté des enquêtes suffisamment précises pour les connaître de façon... voilà. Et donc cet effet de report et cette association de la politique culturelle à une politique, enfin à la culture plutôt, à une sorte de levier de la croissance... Et une réalité qui s'impose aux ministres récents, ministres de la culture, qui sont de plus en plus volatiles, de plus en plus changeants, et soumis donc à des injonctions politiques de plus en plus fortes.
Avant de parler du financement et du mécénat, Françoise Benhamou.
Juste un point sur la surabondance et Malraux. C'est vrai en certains domaines, c'est fou en d'autres. Par exemple, sur le patrimoine, il a lancé une politique patrimoniale magnifique, mais en même temps, il disait très clairement, sans monument pour un siècle. C'est-à-dire que son idée, c'était pas justement de s'éparpiller, c'était pas la surabondance, c'était vraiment de choisir un certain nombre de monuments emblématiques et de véritablement les remettre en état et les offrir au public, si je puis dire.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
Exposition, assiste-t-on à une course aux blockbusters, aux superproductions? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir. Nous en parlons avec nos trois invités, Françoise Benhamou, économiste, Martial Poirson, historien, et Didier Rickner, historien de l'art. Nous l'avons effleuré, cette question du financement, depuis le début de cette émission. Allons-y et revenons à ces grandes expositions dont nous parlons depuis maintenant une demi-heure. Qui finance ces grandes expositions, Didier Rickner?
Bien, quand ce sont des musées publics, ce peut être des mécènes. On cherche de plus en plus des mécènes et ça coûte de plus en plus cher d'ailleurs, puisque les transports coûtent cher, l'assurance coûte de plus en plus cher. Donc c'est soit l'argent public, soit l'argent de mécènes, qui est d'ailleurs en partie l'argent public, puisqu'il y a des réductions fiscales.
Oui, d'importantes.
Dans le cas de la fondation Arnault, par exemple, Louis Vuitton, c'est la fondation, mais donc c'est en grande partie... Le public, puisqu'il y a des déductions fiscales très importantes. Donc c'est souvent le public qui paye. Quand je dis le public, c'est-à-dire l'État.
La communauté, oui.
La communauté, les mairies, etc., les collectivités territoriales.
Les réductions fiscales auxquelles vous faites référence, ce sont celles proposées par la loi Aillagon de 2003, qui permet de défiscaliser 60% de la somme donnée. Françoise Benhamou.
60% pour les entreprises.
Les entreprises, vous faites bien le
pour les particuliers. Ce sont les avantages les plus importants qui existent dans le monde aujourd'hui pour le mécénat. Et c'est vrai que ça a conduit à un développement du mécénat, mais en même temps...
Et d'ailleurs, petite précision, le système devait être réformé dès l'année prochaine, ça a été repoussé à l'année suivante, 2021.
Oui, on verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que ça a été surutilisé dans le cas de la Fondation Vuitton, comme ça a été très justement dit. C'est en même temps un apport qui est tout à fait essentiel pour les expositions. Alors oui, les expositions coûtent de plus en plus cher, notamment les assurances, bien entendu, parce que comme la valeur des tableaux est de plus en plus élevée du fait de la montée de l'inflation sur le marché de l'art, eh bien ça va se retrouver dans le coût des assurances. Et puis vous avez le transport qui coûte extrêmement cher. Par exemple, un tableau que vous allez mettre dans un avion, dans un caisson climatique et avec évidemment un conservateur pour l'accompagner, ça peut aller à 30 000 euros. Donc vous imaginez le coût d'une exposition. On considère qu'au Grand Palais, par exemple, une exposition moyenne, c'est de l'ordre de 2,5 millions d'euros. Alors ensuite, qui finance? Eh bien, il y a la billetterie, bien entendu, mais ça n'est qu'en partie. Cela dit, pour Toutankhamon, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez cher. C'est c'est 24 euros.
24 euros le week-end et 22 euros la semaine.
Voilà, et c'est quand même 20 euros pour les enfants de 4 à 14 ans, ce qui est très cher quand on sait que, évidemment, beaucoup de gens y vont en famille. Donc, il y a la billetterie, il y a, évidemment, pour partie, le mécénat, avec toutes les contreparties qui vont avec. Et puis, vous pouvez avoir les produits dérivés. C'est pas énorme, mais c'est vrai que ça va jouer. Alors, de plus en plus, les institutions coopèrent pour travailler ensemble et pour fluidifier la circulation des œuvres d'art. Et ça va se faire, là, on retrouve ce qu'on a dit au début, ça va se faire entre grands musées, très souvent. Et c'est vrai que les plus petits musées vont avoir beaucoup de mal dans cette affaire, mais ils vont jouer d'autres cartes qui sont intéressantes. Peut-être un exemple, la piscine à Roubaix, je trouve un très beau musée, très intéressant, va essayer de faire redécouvrir des artistes pour aller vers d'autres chemins que le chemin des blockbusters.
C'est le cas aussi du Petit Palais à Paris, entre autres. Didier Rickner.
Oui, le président de la République avait réuni les directeurs des plus grands musées français. C'était il y a un peu plus d'un an. Et il avait dit, on va faire plein de choses formidables, on se revoit dans deux mois. Et parmi les sujets qui étaient abordés, il y avait le problème de l'assurance et du problème que les musées sont obligés d'assurer très cher même les tableaux appartenant aux collections publiques françaises. Et une solution était que l'État se substitue comme assureur. Et puis bon, ça fait il y a un an, on n'en entend plus parler. Le président de la République a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire rien. Mais c'était une bonne solution, une bonne idée pour les musées de province, pour pouvoir faire des vraies expositions qui coûtent de plus en plus cher, même quand ce ne sont pas des blockbusters, d'avoir une assurance payée, qui soit assurée par l'État.
Continuons à parler du mécénat, on l'a évoqué, et on a parlé aussi des politiques culturelles. Mais le mécénat qui permet donc de financer tout ou partie de ces grandes expositions, la question aussi est de savoir quelles expositions, comment sont-elles choisies, comment sont choisis les thèmes, et quel est l'objectif de ces expositions, Martial Poirson?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la contribution financière directe, l'évolution du mécénat privé, elle va vers un mécénat de plus en plus interventionniste dans les choix d'exposition. Et donc il y a un travail de concertation entre le conservateur et le curateur, beaucoup de grandes fondations ayant d'ailleurs leurs ressources propres de ce point de vue-là, leurs propres curateurs, leurs propres équipes d'experts. Donc il y a une sorte de participation directe à la gouvernance et à la politique scientifique des grands établissements à travers ces systèmes de financement privé. Mais ce à quoi on assiste aussi de plus en plus, et ça a été déjà mentionné, c'est à un effet de report. Cette loi 2003 sur le mécénat, elle était destinée à soulager de façon tout à fait relative, ça a été dit, puisqu'il y a quand même un manque à gagner fiscal, la subvention publique. Et de plus en plus, elle a fait émerger finalement des fondations qui s'autonomisent, qui se distinguent, voire qui se démarquent très nettement et entrent en concurrence avec les grands musées nationaux. Donc on est passé d'une logique de coopération qui était intéressante d'ailleurs parce que ça permettait au milieu des conservateurs qui se considèrent parfois, pas toujours loin de là, mais un peu comme les gardiens du temple aussi, de se confronter à une adversité, de se confronter à d'autres regards issus de la société civile, à d'autres approches. Mais il me semble que là, ce qui se passe récemment, en fait, l'évolution, elle va plutôt vers une prise d'autonomie de ces fondations qui vont profiter de ce levier finalement de la déduction fiscale pour pouvoir créer des structures qui, dans une large mesure, contribuent aussi à des effets de visibilité très forts, la Fondation Vuitton, à des effets de marque et à des effets de légitimation finalement d'entreprises privées à l'intérieur du champ culturel. Ce qui est en fait la très vieille tradition, rapidement, d'ailleurs notamment anglo-américaine, finalement, du mécénat privé.
Il nous reste 5 minutes. Excusez-moi, Marcel Poirson, il nous reste 5 minutes. Je voudrais que la parole continue de circuler. Françoise Benhamon.
Sur les fondations, il y a beaucoup de fondations qui ont été créées. Il n'y a pas que Vuitton. On a un peu l'œil rivé sur Vuitton parce que c'est évidemment la grande. Mais il y en a d'intéressantes qui ont des politiques assez originales. À Concarneau, la fondation Leclerc. Vous savez, une fondation Porquerolles avec des problèmes d'ailleurs derrière.
Bon, Carmignac.
Il y a beaucoup de fondations. Il y a des choses. Moi, je trouve, j'ai envie de citer Mao. Allez, que Sans Fleurs s'épanouisse. S'il y a beaucoup de fondations, tant mieux. mieux. Mmh. La question est de savoir si l'argent privé qui allait aux grandes expositions portées par le Grand Palais et d'autres va à ces fondations. À ce moment-là, il faut que l'État prenne le relais et assume. C'est ça le problème.
Est-ce qu'il y a un problème de diversité aussi avec, avec ces grandes expositions et ce mécénat? Est-ce qu'on creuse finalement des sillons dont on sait qu'ils fonctionnent, qu'ils sont rentables? L'Égypte, encore une fois, les impressionnistes.
Il y a toujours eu ces grands sillons. Et regardez récemment, par exemple, Laurent Lebon a créé un réseau Picasso. Il y a eu 78, si je ne me trompe pas, expositions Picasso.
Laurent Lebon, qui est le directeur du musée Picasso.
Voilà, en divers lieux. Dans le fond, Picasso a toujours attiré. Et la question, c'est arriver à marcher sur deux jambes. Et pour marcher sur deux jambes, c'est vrai qu'il faut en avoir les moyens. Et peut-être l'État doit être là, justement, en complément de l'argent privé. Ou même l'inverse, d'ailleurs. C'est l'argent privé qui doit compléter là où l'argent public pourrait manquer. Pour que ces expositions, peut-être plus confidentielles, continuent d'exister. Mmh. C'est le vrai sujet de la politique culturelle. Et c'est un sujet dont il faut absolument s'emparer.
Didier Rickner.
Parler du Petit Palais à Paris, du musée du Petit Palais, qui a un directeur formidable qui s'appelle Christophe Le Ribaud et qui mène des expositions qui ne sont théoriquement pas des blockbusters. Par exemple, il y a un ou deux ans, l'exposition Anders Zorn, un peintre scandinave, et qui a eu un succès formidable. Et maintenant, la moindre exposition faite par le Petit Palais, alors que ce sont des expositions compliquées, qui ne sont pas forcément grand public, avec des catalogues sérieux, ce sont des vraies expositions, et bien à chaque fois il y a le succès. Donc je pense qu'en faisant une politique de ce type-là, on peut arriver à faire des expositions nouvelles, qui montreront des choses nouvelles au public, et qui ne seront pas déshonorantes comme certaines.
Et pour les musées, Martial Poirson, et rapidement parce qu'il nous reste deux minutes, sur les musées, est-ce que ce sont là les expositions permanentes qui souffrent de ces super productions, même si, on vient de l'entendre, il y a aussi des réussites ailleurs, dans d'autres structures?
Oui, alors je crois que les collections permanentes sont pas forcément perdantes. Là aussi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par Madame Benamou. Les choses ne sont pas incompatibles et une grande exposition peut être pour un musée l'occasion de faire des investissements de structures durables, pérennes, qui vont profiter ensuite aux collections. Elle peut également être l'occasion de valoriser une partie. Alors, je crois que il y a moins de 10% en moyenne du patrimoine conservé par les musées qui est exposé de façon permanente. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a des collections entières dormantes, y compris dans les plus grandes institutions qui sont revivifiées par cette politique d'exposition dont c'est la vocation finalement traditionnellement d'essayer de changer le regard, de faire circuler les objets et les œuvres et permettre de valoriser un patrimoine qui est beaucoup plus riche que celui que la collection permanente ne peut montrer. Donc il y a une complémentarité possible mais qui doit être prise en charge par des institutions publiques responsables qui jouent un rôle de régulation, l'État jouant également un rôle de régulation dans cette économie qui peut être vertueuse en évitant les effets d'éviction sur la marchandisation, en évitant un certain nombre de travers qui ont été évoqués tout au cours de l'émission et en jouant véritablement son rôle, c'est-à-dire que l'arrivée massive du financement privé dans la culture doit être accompagnée en cadrer et stimuler beaucoup plus que laisser dans une sorte de logique de libéralisation du secteur, qui à mon avis n'est pas ce qui se passe, mais ce qui pourrait être le risque.
Si je reviens à ma paroisse juste un instant pour illustrer ce que vous avez dit, beaucoup de musées dont le Louvre, mais c'est pas le seul, maintenant proposent des billets groupés, vous achetez collection permanente et exposition et vous pouvez pas faire autrement. Donc c'est une manière aussi de dire aux gens, vous allez voir une expo, mais allez jeter un œil quand même aux collections permanentes et vous verrez des choses extraordinaires. Et ça peut être une ouverture, c'est intéressant.
Didier Rickner.
Les collections permanentes peuvent être sacrifiées, mais comme l'a dit M. Poirson, si la politique est bien menée, on peut s'appuyer sur les collections permanentes, dont certaines ne sont pas exposées effectivement, pour faire des expositions. Donc c'est une question de mesure en fait.
Françoise Benamou, quelles sont les pistes, il nous reste 30 secondes, mais quelles sont les pistes qui pourraient faire que ces super productions n'étouffent pas et ne prennent pas plus de place qu'elles n'occupent aujourd'hui?
Je pense que les musées n'ont pas intérêt à aller trop loin, tout simplement, parce qu'ils vont creuser leur propre tombe. C'est-à-dire que des expositions blockbusters, c'est formidable, mais on ne peut pas faire ça tout le temps et que ça. Il faut une politique scientifique, etc. Donc je pense qu'il va y avoir une forme d'autorégulation qui peut être accompagnée par l'État à travers sa politique, privilégiant aussi des musées qui ont des politiques très fortes en matière pédagogique, en matière scientifique, etc.
Merci à tous les trois. Merci d'avoir participé à ce débat, à cette discussion riche autour des expositions. Merci Françoise Benhamou, professeure d'économie à l'Université Paris 13. Merci à Martial Poirson, historien économiste, professeur à Paris 8. Merci à Didier Rickner, directeur de la rédaction du magazine en ligne La Tribune de l'Art. Grand merci aussi à nos amis de France Bleu Loire-Océan et France Bleu Gard-Lozère, même si la liaison n'a pas été simple, pour nous avoir permis de vous parler, messieurs. Merci aussi à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Stéphanie Villeneuve, Léa Capuano, Margot Le Ridon, Aliette Ovine, Roxane Poulain et Valentin Baird. Et réalisation Alexandre Fougeron, mise en onde ce soir, Anthony Thomasson.